les incunables, donc ça, ça trotte toujours dans ma tête, et Monsieur Desgraves, qui est responsable de cette collection, m'accepte comme contributeur pour la région centre. Voilà. Alors ça, c'est dans les années 90. Je ne sais plus exactement, il faudrait que je mette au point ma chronologie personnelle. Et toujours est-il que j'ai passé là aussi, c'était, il n'y avait pas encore de budget pour les déplacements, pour les voyages, j'avais une entreprise autogérée en quelque sorte. Heureusement pour une de Orléans, c'était pas loin. C'était pas la Champaillardais. On avait eu quand même des communications très faciles avec Orléans. Dirais-je que c'était plus facile à l'époque qu'aujourd'hui ? Je n'en sais rien, mais je ne pourrais pas être médisant. Mais enfin, j'ai passé rue du Panloup dans ce qui était l'ancienne bibliothèque, l'hôtel épiscopal d'Orléans, où était la bibliothèque. Et j'ai passé parfaitement libre de mes mouvements dans la pêche aux livres sur les rayons. Monsieur Hochkorn, qui en était le directeur à l'époque, et me laissant toute latitude pour aller. C'est tellement commode, si vous voulez, quand on peut se dire ça me rappelle une reliure, ça me rappelle ça. C'était quelque. Et toc, au lieu de faire un bulletin et de passer une partie du temps. C'est vrai que c'était. Mon travail était exceptionnel, c'était quand même la valorisation de la collection. Hein. Bon. J'allais sur le rayon, je tirais mon livre et puis vous voyez si mon hypothèse était bonne ou pas bonne. Et donc Orléans, ça allait. J'avais un hébergement à Orléans où j'ai de la famille, donc l'été passe. Ah, Orléans, à Bourges, pardon. À Bourges où j'avais de la famille. Et j'ai passé donc une partie d'un été, je ne sais plus lequel, non plus, dans la bibliothèque de Bourges, où j'ai pu travailler dans les mêmes. J'étais installé au milieu des incunables et des manuscrits, puisque les uns et les autres étaient dans la même salle, de l'hôtel de Témoins, il s'appelle l'hôtel Témoins, place des Quatre Piliers, où il y a encore aujourd'hui. Le fonds patrimonial de très riche, très très riche, de Bourges, même s'il y a eu des incendies, mais c'est une belle collection avec des provenances très intéressantes, comme toutes les collections. Il y a pas une, même quand il y a quatre incunables, il y en a bien au moins un sur les quatre qui mérite une attention particulière, quand c'est pas même les quatre. Les deux principales, c'est ça, Tours, évidemment, c'est les fantômes, hein, puisque ce sera autre chose. 400 et quelques, oui, il y avait plus de 450 incunables hein, à Tours, dont il est resté 51, dont une moitié qui était dans des recueils factices, donc des toutes petites plaquettes, évidemment rares, mais des petites plaquettes. Il y avait Chartres, même sort que Tours, hein, destruction de L de 44. Qu'est-ce qu'on avait encore ? Blois, belle collection à Blois. Donc j'ai fait ces voyages qui n'étaient pas, je vous dis, très très difficiles, même pour une journée, c'était rentable d'aller là. J'avais même fait l'acquisition d'un statif pour faire des photos, hein, avec c'était le matériel pas hautement professionnel, mais c'était quand même déjà, j'arrivais à faire des bonnes diapositives bien composé du point de vue des valeurs de couleurs, hein, c'était pas mal. On faisait pas quand même des diapositives qui étaient assez chères à l'achat et qui étaient quand même assez chères au développement. On n'en faisait pas comme aujourd'hui. Évidemment, ça l'avait. Quand je pense que ça aurait pu être avec les instruments aussi faibles, enfin aussi peu encombrants que les Quel est un petit appareil contemporain, c'est... Bon, mais alors je transportais, fallait parfois accéder pour... Le statif, c'était quand même un grand tableau, une grande table, enfin comme ça, oui, à peu près comme ça, d'une 70-80 cm au moins, et puis il fallait monter. Hein, donc c'était un petit travail manuel préalable, mais qui donnait quand même des résultats intéressants. Donc j'ai fait des rouleaux de noir et blanc, et puis des diapositives bon, qui peuvent être encore regardées. Donc il y avait tout ça, hein, c'était pas mais, quelque chose de très d'instantané. Hein. Il fallait vraiment une préparation technique pour les grands. Donc voilà, et tout ça paraît, alors je ne sais pas, dans les années 90, mon catalogue, il porte le tome 10 dans la collection. Vous voyez, on était 10 ans après, oui, quelque chose comme ça, 10 ans après le premier volume. Et ça s'est poursuivi depuis. La France n'est pas tout à fait couverte. Il y a bon, des gens qui ont entrepris et qui ont terminé. Il y en a d'autres qui ont entrepris et puis qui n'ont pas terminé. Et alors, ce qui est terrible, c'est que les normes ont changé au fil des années. On est allé de plus en plus loin. Déjà, dans les premiers catalogues, les mentions de provenance étaient signalées, mais parfois sans indication de date probable. Or, les mains permettent de dire c'est plutôt 16e, non, là on est fin 16e, là au contraire on est peut-être quasi contemporain du volume, donc c'est peut-être le premier problème. Enfin, il y a toutes sortes d'indications qu'il faut baliser pour les utilisateurs. Hein. Et puis, quand il n'y avait pas une reliure particulièrement intéressante, il n'y avait rien en mention de reliure. Quand elle était vraiment avec un décor contemporain, enfin, ou postérieur, mais enfin, qui était remarquable, soit par son ancienneté, soit par sa qualité moderne, il y avait relle. Voilà, ça, aujourd'hui, on va quand même beaucoup plus loin. Voilà. Donc, toutes sortes de choses qui ont évolué, ce qui fait que des catalogues qui n'ont pas été achevés ou qui demandaient à être... il faut les reprendre au moins pour tout ce domaine, pour ne pas être de pas régresser par rapport aux volumes qui viennent d'être publiés et qui ont été sous ces normes, publiés sous cette façon-là. La chose continue. Le ministère de la Culture nous aide toujours pour l'émission, parce que c'est quand même, ça peut être aujourd'hui onéreux. Bon, l'époque, je ne sais pas, c'était est-ce que le rapport entre le salaire et les transports ferroviaires était plus avantageux ? Je ne sais pas, c'est possible. Et donc, il y a pour l'émission et pour les publications qui sont assurées, qui ont été assurées par différents établissements, hein, les bibliophiles de Guyenne, les éditions, je ne sais plus quel était le pendant quelques années, c'était une édition, Kingsick, et puis aujourd'hui c'est les éditions de Rose qui se chargent de cette publication. Elles sont sous le même format. Ça, la collection n'a pas changé, les caractères ont changé, il y avait deux colonnes, on mettait les auteurs secondaires au milieu des auteurs principaux, ce qui encombrait quand même beaucoup, beaucoup ces dites colonnes. Donc on a depuis pas si longtemps que ça supprimé les auteurs principaux qui de toute façon sont indiqués, sont repérables puisque le volume est numériquement accessible, et d'une part, et puis qui sont repérables par des tables, enfin ça. Donc il n'y a plus que la notice de l'auteur principal ou de la collectivité, enfin de la collection, que les auteurs Scriptores Rei Rusticae, les auteurs de latin de différents domaines, astronomes par exemple et autres, sont ainsi regroupés, mais c'est le volume qui le veut, hein, voilà. Donc Donc on a amélioré ces choses-là. On a évidemment les références sont plus nombreuses. Et puis il y a surtout la référence qui c'est pas si vieux systématique à l'ISTC. ISTC c'est le catalogue général des manuscrits sous forme numérique qui a été mis en place par les bibliothécaires de la British Library et qui recense tous les incunables connus, donne des inscriptions qui ne sont pas exhaustives, mais localise tous les exemplaires, et pas exhaustives au sens de les exemplaires ne sont pas décrits, encore que maintenant on a des renvois, enfin c'est vraiment le catalogue de référence. Hein. Mais on le complète par évidemment les mentions spécifiques, les qualités spécifiques de l'exemplaire. Donc ISTC et puis d'autres références qu'on estime devoir être mises à des catalogues plus particuliers ou renvoyés à des exemplaires qui varient par rapport à celui qu'on a sous les yeux, qui sont la même édition. Mais voilà. Donc toutes ces choses-là n'apparaissaient pas évidemment dans les premiers volumes, mais se sont progressivement mises en place.
C'est un chantier énorme que ces catalogues.
Ah oui, ça c'est vrai que c'est.
Et j'avais une question en remontant dans le temps. En 1977, vous avez reçu un prix qui m'a intriguée.
Le prix Monseigneur Marcel.
Oui. Oui. Et donc un prix, aujourd'hui, vous êtes dans la liste des récipiendaires en très très bonne compagnie avec Serge Grusinski, Jean Delune.
Ah oui, non, mais c'est. J'ai honte. C'est pour mes travaux sur.
Et voilà, pour quels travaux
C'était la bibliographie normande.
D'accord.
Je dois dire que ça a permis quand même d'alerter. Alors j'avais publié dans l'Histoire de l'édition française, on m'avait confié, Henri-Jean Martin, qui en était l'animateur, et qui m'avait confié les bibliothèques. Enfin non, ça c'était pas les bibliothèques, ça c'était l'édition française provinciale. Voilà, l'édition française provinciale, ça doit remonter aux années 80, et il m'avait confié ce chapitre, il y avait, c'est un gros volume, hein, et ça c'est pour la période Moyen-Âge jusqu'à est-ce que c'est 1600 voilà, au début du 17e, il me semble que c'est là le premier volume. Donc dans ce premier volume, il me semble, où il est moins. Ah, j'ai plus la chronologie, le terminus. Et toujours est-il que j'ai. Et là, il fallait faire quand même un tableau de à peu près raisonnable des productions de chacun des lieux de typographie. Donc je vous disais Lyon, Paris, bon, on avait les. Je m'en occupais pas parce que provincial, j'avais tout de suite mis la barre. On enlève Paris et Lyon, qui sont deux capitales. Donc il me restait les autres villes. Et dans les autres villes, j'ai fini par découvrir que Rouen était vraiment la première de ces autres villes. Et pour un chiffre, alors je ne vous dirai plus le nombre, d'entrées tout à fait intéressant, quantitativement intéressant. Donc ça m'a amené, j'avais déjà beaucoup, beaucoup de notices, même si, comme je vous ai dit, elles ne sont pas encore toutes publiées, mais qui me permettaient de donner des chiffres vraisemblables hein, à des unités ou des dizaines d'unités près, mais ce n'était pas comme il s'agissait de plusieurs milliers, ça ne faussait pas la statistique de mon tableau. C'est là aussi où j'ai travaillé sur Rouen hein, pour continuer. Alors ça demandait beaucoup pour un chapitre, hein, pour un chiffre, c'était beaucoup de travail pour. Mais bon, le travail était quand même avancé de ce côté-là. Ça montrait un certain nombre de choses. Et voilà pourquoi Rouen. Et c'est. Alors à l'époque, j'avais un ami. Hélas, disparu il y a bien longtemps. Daniel Auster, ça vous dirait. Daniel Auster, qui était professeur de lettres à l'université, hein, qui était secrétaire du secrétaire de l'Académie, c'est-à-dire Maurice Genevoix. Voilà. Et alors, bon, il cherchait des clients pour. pour le prix Marcel, Raymond Marcel. Et il s'est souvenu de moi, on se voyait assez régulièrement, il a obtenu ce prix. Alors je ne sais pas combien il s'est monté, c'était une somme qui était, me semble-t-il, intéressante, et je l'en ai beaucoup, beaucoup remercié, sachant qu'il était... Alors il enseignait, non vous ne l'avez pas, non ça ne vous dit rien, Daniel Auster, il était aussi romancier, et il était tout à fait la littérature contemporaine, hein, c'était voilà pourquoi j'ai bénéficié de ce prix qui...
Et Monseigneur Marcel lui-même, vous l'avez jamais rencontré?
Ah si, j'évoquerai ces moments dans le volume qui va paraître sous la responsabilité de Rémy, sur la commémoration du 50e anniversaire du lait de Monseigneur Marcel à la bibliothèque de Tours. Il va y avoir, ça va être un beau volume, hein, aux éditions des Cendres, qui est, comme vous savez, spécialisée dans ce domaine de l'histoire du livre, des collections, etc. D'autres choses, mais très, très... Et c'est vraiment de belles publications dont il fait plaisir, auxquelles il faut vraiment s'intéresser. Et c'est très bien fait, typographiquement, et les illustrations, non, c'est vraiment très beau. Donc, on va avoir un beau volume qui devrait paraître dans le mois de février-mars, hein, quelque D'accord. chose comme ça, qui va être le... Et alors, j'évoque dans un article sur les collections, d'où viennent, de quelles collections anciennes, prestigieuses ou moins prestigieuses, les volumes de la bibliothèque de Monseigneur Marcel proviennent-elles? Voilà. Et on trouve tout le Gotha, notamment au 19e et 20e siècle, de la librairie française, et surtout française, mais anglaise aussi, qui ont... accueilli des collections prodigieuses, hein, tout à fait extraordinaires. Les libraires qui ont été les intermédiaires à cette époque entre les bibliophiles et ces livres. Et donc, il y aura un article où j'évoque mes rencontres. Plusieurs fois, parce qu'il avait fait des conférences. L'année Alberti, il avait fait des conférences dans le cadre des Amis de la Bibliothèque et du Musée. Et à cette occasion-là, j'ai pu me rendre compte que Monseigneur Marcel, tout prêtre qu'il fût, ne dédaignait pas les nourritures terrestres, qu'il avait un faible pour l'alose, poisson de Loire assez recherché, et qu'il était connu à la... C'était la rôtisserie tourangelle, ça s'appelait, je crois, dans ce temps-là. Il n'y avait pas de table ouverte. Non, mais quand même, il aimait bien la bonne chair. Ça c'est autre chose que vous on trouvera dans la biographie.
On vous lira.
Et puis non, mais on lira surtout ce que Rémy a mis en œuvre sur la biographie, comment Monseigneur Marcel, de petit curé de campagne, est devenu prélat de sa sainteté et possesseur d'une bibliothèque exceptionnelle. On a là à Tours un fonds dont la Bibliothèque nationale s'était déclarée envieuse. Oui, carrément. Quoi, ça va à Tours, on m'avait dit là-haut, dans la réserve, cette petite. J'ai dit oui, c'est Monseigneur Marcel, l'intention de léguer à Tours. Voilà, donc je l'ai connu.
Très bien.
Je l'ai connu, notamment à l'occasion d'une vente, Wilkinson, où on m'avait chargé d'acheter un petit livre de grammaire du début du XVIe siècle, qui était une rareté, et que j'ai pu... Alors, j'étais accompagné de Monseigneur, qui m'indiquait, parce que c'était quand même à Drouot, et puis pas une vente de troisième ordre, hein, beau livre, et où j'ai bénéficié de ça, la façon de procéder quand on était enchérisseur dans ces circonstances. Et j'ai pu, pour un prix raisonnable, on m'avait donné évidemment une marge supérieure, et j'ai pu acquérir ce volume de Nebrija, grammairien de l'espagnol, hein, du castillan, devrais-je dire, et grammairien du latin à la fin du XVe siècle. Et il est toujours dans notre... Et c'est une rareté assez remarquable, parce qu'il y a une impression lyonnaise qui, semble-t-il, n'a pas d'autre témoin que celui que nous avons. Il faudrait que je vérifie encore. Mais donc, c'est un unicum, comme on les appelle. C'est pas tout à fait innocent. Voilà, alors là, je l'ai vu en action, mais il était bien connu de tout. Il achetait, où il faisait acheter. On savait que c'était pour Monseigneur Vincent. Enfin, il était très, très bien connu à Drouot, avec Pierre Berès, qui était là avec son écharpe rouge, et puis quelques autres grands noms de la librairie ancienne parisienne, ou internationale. Donc, je le voyais tout à fait dans un milieu où il était imposant, hein, c'est un grand monsieur, je veux dire, physiquement, et puis bon, on connaissait ses travaux aussi, donc il en imposait. Hein.